ce matin, j'aimerais aborder le thème « Pourquoi fréquenter l'Église ?» Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Une maman réveille son fils un dimanche matin et dit « Debout, tu vas être en retard à l'Église. » Il répond « Je ne veux pas y aller. Je n'ai pas d'amis là-bas. La musique est atroce et les sermons sont ennuyeux. » Et la femme riposte et dit « Tu dois y aller, tu es le pasteur. » Faut bien vous faire sourire un petit peu quand même, non ? Hein ? Mais bon, sérieusement, parce qu'on est quand même des gens sérieux. Pourquoi devriez-vous fréquenter cette église ce matin ? Parce que vous avez été invité, parce que vous êtes en famille, et parce que votre famille vient ici, parce que vous ne saviez pas quoi faire ce matin, et peut-être vous avez dit, « Ah, tiens, j'aurais pu être à la plage en train de me promener, il fait beau, oui. » Alors on va prendre un texte qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25, qui nous dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Alors je me dis, Seigneur, tu as du boulot à faire chez nous. Ah ben peut-être pas chez vous, mais chez moi, toujours. Bien entendu. Alors, je vais quand même évoquer quand même cinq raisons pour nous rendre à l'Église. Elle seule a traité encore les sujets tels que le salut, la guérison, la mort, le jugement, la grâce, le ciel, l'enfer, j'en passe, et des meilleurs. Elle ajoute la valeur et dignité à la vie humaine. Le monde actuel nous pousse à nous sentir de plus en plus inutiles, puisqu'on décide tout à notre place. L'Église combat ce message négatif en prêchant l'amour du prochain et la reconnaissance de Dieu. Et puis, elle fournit une boussole morale, spirituelle. Vous savez que la société a rejeté des certitudes, et adopter tout ce qui peut être relativisme. Mais l'Église s'appuie sur le socle intemporel de la parole de Dieu. Et puis, dans l'Église, vous y trouvez la compassion. Nous avons chanté tout à l'heure, « J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi ». Je crois qu'on a besoin les uns des autres. Et je crois que dans l'Église, c'est, j'allais dire, un symbole qui doit être pratiqué. L'amour du prochain, c'est important. C'est ce qui fait le ciment de l'Église, où on trouve la compassion, la guérison, la communion fraternelle. C'est important. Et puis, parce que nous sommes tous égaux devant Dieu et l'Esprit nous y garantit que nous avons les uns et les autres un accès auprès de Dieu. Il n'y a pas des privilégiés plus que les autres. Je peux m'approcher et vous pouvez vous approcher de Dieu comme tout à chacun nous pouvons le faire. Oui. Et puis aussi, contrairement à d'autres institutions, eh bien, elle a inspiré des œuvres les plus durables, généreuses, vitales, courageuses au monde, les missions. Les écoles, les hôpitaux, les banques alimentaires, les orphelinats, etc., etc. Pourquoi fréquenter l'Église ? Bien, tout simplement parce que Jésus l'aime. Alors, j'ai envie de dire, ben, faites comme Jésus. Aimez l'Église. Alors je pourrais conclure ici mon message, je serais peut-être un peu court ce matin, pour une fois. Pourquoi vous riez ? Parce que ce n'est pas l'habitude, hein, sans doute. Alors, on va essayer de détailler en 8 points, hein, le fait d'aimer votre Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'ai entendu tout à l'heure, Dieu nous a visités, Dieu nous a aimés, non pas parce qu'on était les meilleurs. Je traduis à peu près comme ça. Parce qu'on n'était pas, on n'est pas parfait. On n'est pas mieux que les autres. Mais que nous sommes des hommes et des femmes qui désirons s'améliorer. Mais qui savent très bien que par eux-mêmes, ils ne le pourront pas. Mais par la grâce de Dieu, oui, ils pourront. Ils pourront changer. Peut-être, et sans doute, que si vous fréquentez l'Église depuis du temps, eh bien, vos pasteurs successifs ou votre pasteur a pu vous décevoir. Sachez une chose, je vais vous faire une confidence, il n'est pas parfait. Et ils ne sont pas parfaits, nos pasteurs. Mais j'aimerais dire aussi que c'est une espèce en voie de disparition. Oui, mais Jésus-Christ est le chef de cette Église. C'est cela, avant tout, que nous devons relever. Et lui, en tant que chef de l'Église, eh bien, il ne nous décevra jamais. L'Église de Christ, dont notre assemblée fait partie, elle était planifiée par Dieu, bien avant la création du monde. Dieu savait qu'il y allait avoir une œuvre ici. Même moi, avant que je le sache, mais Dieu le savait. Bien entendu. Elle a coûté le précieux sang de Jésus. Elle s'est maintenue à travers l'histoire par le sacrifice des martyrs. Les prophètes l'annoncent plus glorieuse encore à la fin des temps. Et elle se prépare dès aujourd'hui comme une épouse pour son époux. Comme Jean le dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. J'espère que vous vous préparez pour le jour où le Christ apparaîtra dans toute sa gloire et qu'il enlèvera son Église. Alors c'est vrai qu'on peut avancer bien des critiques sur l'Église, sur les responsables. On peut quitter l'Église, l'Assemblée. On peut lui refuser son soutien, mais sachez une chose et souvenez-vous que rien au monde n'est plus cher au cœur de Dieu que son Église. Quand vous blessez n'importe quelle partie du corps, vous blessez la tête aussi. Gardez également ceci en mémoire. La seule chose sur la terre qui ait de l'avenir, c'est l'Église. Elle est là pour toujours, jusqu'au retour du Seigneur. Et sachez que tout le reste partira en fumée. Et c'est notre police d'assurance qu'est l'Église. Elle est garantie par Jésus lui-même. Il a dit, je construirai mon Église. D'autres versions disent, je bâtirai mon Église. Peu importe le mot, mais c'est le... C'est Dieu qui est l'entrepreneur de l'Église. Et la puissance de la mort n'est rien contre elle, nous dit Matthieu. Et puis, deuxièmement, aimer votre Église, eh bien, c'est Pierre, un Pierre qui nous dit, chapitre 2, verset 5, « Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Nous n'allons pas à l'Église. Souvent, j'entends, et je l'ai prononcé aussi maintes et maintes fois, et certainement pendant des années, nous allons à l'Église, je vais à l'Église. Et peut-être ce matin, vous avez dit, je vais à l'Église. Non? Oui? Oui? Ben oui. Eh ben non, vous n'allez pas à l'Église parce que vous êtes Église, mes frères et sœurs. Ici, ce bâtiment, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le temple. Vous êtes église. Oui ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ben oui, j'espère bien. Hein, eh oui, nous n'allons pas à l'église, nous sommes église. Imaginez si on n'avait pas de salle et qu'on était obligé de faire le culte sur le terrain à côté, est-ce qu'on ne serait plus église ? Ben non, on serait toujours église. Et on ferait notre culte gentiment, en plein air. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en vacances dans les Charentes-Maritimes, et on n'avait pas le lieu de culte un dimanche matin, et puis c'était trop loin pour y aller, et il y avait pas mal de chrétiens, une trentaine de chrétiens dans les environs, dans les campings et tout cela. Et donc on a mis sur un terrain où il y avait de l'herbe et tout cela, avec une guitare, on a rassemblé tout le monde et on a fait le culte. Total, on s'est retrouvé avec 150 personnes à assister, alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Et donc les gens sont venus et ils ont écouté. Je crois que c'est cela, l'Église. Hein? Elle n'est pas cloîtrée dans un bâtiment. Elle ne vit pas dans un vase clos. Elle est Église dans le monde. Oui, c'est Christ qui l'a bâti. Quand on regarde dans la Bible, le temple de Salomon, il a été conçu par David, hein, le père, construit par Salomon le fils, et lors de sa consécration, il a été rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous ici ce matin, eh bien nous sommes Église de Jésus-Christ. Nous sommes semblables au temple de Salomon, où là, Dieu nous honore ce matin par sa présence, parce que l'Église, elle est bâtie sur le rocher du salut. Vous savez que le mont Morija est l'endroit où Abraham est allé pour offrir son fils Isaac en sacrifice, mais plus de 2000 ans plus tard, Dieu a conduit son fils unique sur la même montagne afin de mourir pour nos péchés. Quelqu'un a dit, la croix est la seule échelle assez haute pour atteindre les cieux. Belle pensée. La croix est la seule échelle assez haute pour atteindre les cieux. Elle est le bâtiment le plus remarquable jamais construit. Et pourtant, il est difficile, j'allais dire même pour un entrepreneur, lorsqu'il doit bâtir un édifice, eh bien, il choisit les matériaux. Et Dieu vous a choisi, alléluia. Est-ce que vous êtes conscient ce matin que Dieu vous a choisi ? Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, mais Dieu vous a choisi. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Dieu a voulu que vous soyez là. C'est important. Ce que je remarque quant à la construction du temple, c'est que les pierres, elles étaient façonnées avant assemblage. Elles étaient lavées, ciselées et puis ajustées avec soin. Mais c'est aussi notre histoire, frères et sœurs. Dieu nous transforme. Dieu nous change, Dieu nous lave, nous purifie, ôte en nous ce qui est inutile, disgracieux, pour nous assembler et nous ajuster avec soin avec les autres pierres. Oui, oui, c'est cela, l'Église, être ajustés les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tellement différents les uns des autres. Nous ne serions pas capables de vivre si nous n'étions pas convertis ensemble. Nous n'aurions même pas eu la moindre idée de pouvoir nous connaître à un moment ou un autre. Et Dieu a voulu que vous soyez là ce matin, d'horizons différents. Il y en a qui viennent du Soudan, d'autres qui viennent d'Haïti, d'autres qui viennent de Suède, d'autres de Hollande, hein, voilà, hein, de la région parisienne, d'autres qui viennent de Strasbourg, mais, et puis d'autres de Vendée. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Eh oui, on sent le Vendéen, là. Hein. Eh oui, vous vous rendez compte? On a une église cosmopolite. Hein, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. Vous ne trouvez pas? Comme Dieu fait les choses. Si j'avais choisi, moi, ben, il y en a que j'aurais jamais pris, moi. Ben, eux aussi, ils ne m'auraient jamais pris non plus, hein. Ça faut vous dire aussi, hein. Mais c'est cela, la vie de l'Église aujourd'hui. Ben, on est heureux d'être ensemble, de construire cette Église que Dieu assemble jour après jour. Il met des pierres les unes avec les autres. Et c'est pourquoi Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 2, verset 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Ah, ben voilà ce qui est intéressant, une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et oui, comme je viens de le dire, les matériaux de l'édifice avaient des origines diverses. Nous ne sommes pas sauvés par nos origines raciales, mais nous sommes sauvés par grâce, et nous le savons bien. Ce n'est pas le sang qui coule dans nos veines qui nous sauve, c'est le sang qui a coulé des veines de Jésus qui nous justifie devant Dieu. David décrit bien le temple de Salomon. La maison qui sera bâtie à l'Éternel élèvera sa renommée et sa splendeur bien haut dans le pays. Voilà ce que Dieu ressent pour son Église. Et c'est ce que nous devrions ressentir aussi. Et puis le troisième point, aimez votre Église. Dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, chapitre 8, verset 11, il nous est dit, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est seulement lorsque l'arche de l'Alliance fut amenée dans le temple et placée au bon endroit, au centre, que la gloire de Dieu remplit le temple. Et c'est lorsque Christ est au centre de l'Église, c'est lorsque le Christ est au centre de nos vies, que la gloire de Dieu peut se manifester, mes frères et sœurs. Dieu peut se manifester par son esprit au milieu de nous. Il nous est dit dans 1 Roi 8, 10, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Je me dis, ça devait être grandiose. Et je me dis que c'est une leçon pour chacun de nous. Et en particulier pour ceux qui sont responsables dans cette Église. Christ seul doit avoir la place centrale. Tout ministère est bon. Toute initiative est bonne. Mais il faut honorer Jésus comme Seigneur, prêcher sa parole, célébrer et adorer sa présence pour que sa gloire remplisse l'Église. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous louerez Dieu dans sa maison, n'oubliez pas, c'est de lui qu'il s'agit. Pas de moi. Mais c'est de lui. Le pasteur de l'église de Washington qui fréquentait le président Franklin Roosevelt reçoit un jour un coup de téléphone. Quelqu'un lui demande « Pensez-vous que le président sera au culte ce matin ?» En parlant du dimanche, Le pasteur répond, ça, je ne peux pas le promettre. Mais nous, nous attendons au Seigneur, voilà qui devrait suffire pour remplir l'Église. Et puis quelqu'un d'autre a écrit, même si tu me donnes la terre entière, c'est un cadeau bien petit au regard de l'amour divin, si merveilleux, si grand, qui exige tout de moi, mon âme et ma vie. Alors, frères et sœurs, dimanche prochain, lorsque je viendrai à l'Église, je ne me contenterai pas d'occuper un siège, je remplirai la maison du Seigneur de ma louange. Quatrième point, aimer l'Église, Jésus l'aime. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, « Toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. » La Bible dit aussi, « Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. » Soyons un instant surréalistes. On peut penser et imaginer, par exemple, que votre pied décide tout d'un coup de ne plus faire partie du corps. Je raisonne par l'absurde, hein, vous comprenez bien. Et comment, et quand vous lui demandez pourquoi, bon, il vous dit tout simplement, je suis fatigué de marcher. Je suis fatigué de me laisser marcher dessus. D'autres parties du corps, ils ont la belle vie, mais moi j'ai la charge la plus lourde, personne ne m'apprécie. On parle de la beauté des yeux, la beauté des cheveux, des lèvres, mais personne n'écrit des chansons sur les pieds. Alors je m'en vais. Quand vous lui demandez, et qu'est-ce que tu envisages de faire maintenant ? Oh, ben, je vais rester à la maison, tout simplement. Je vais regarder les programmes de la télé, les programmes chrétiens. Oh, j'ai rien contre la télé chrétienne, il y a des belles émissions. Hein, et pour ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas se déplacer et aller à un culte, des fois, c'est vraiment bien, je peux vous le dire, mais bon, il faut aller sur quelque chose de bien. Hein, je me souviens l'année dernière, eh bien, ne pouvant pas me déplacer à aller à un culte dans une église, eh bien, j'ai regardé une émission à la télé. Hein, et j'ai vécu un culte extraordinaire. Je me suis fait un culte chez moi. Mais il ne faut pas en prendre une habitude, quoi. Ça doit être exceptionnel. Et pour ceux et celles qui ne peuvent se déplacer. Oui, c'est cela, l'Église. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je vois des gens qui quittent l'église. Ils ne vous disent maintenant et même ils vous disent même plus pourquoi ils quittent l'église. Pardon. Et je me dis, est-ce qu'ils ont demandé la permission à Dieu ? Est-ce qu'ils ont demandé la permission à Dieu ? Parce que quitter son église, ce n'est plus remplir les fonctions que Dieu vous a assignées. Alors sans doute, ceux qui quittent l'église peuvent sembler être tranquilles pour un temps. Mais ce que je sais par expérience, c'est que ces personnes-là ne s'épanouiront pas. Privés de nourriture spirituelle, ils ne grandiront pas en maturité. En effet, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Et le pied peut dire, moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. Oui, c'est absurde, je le conçois ce matin. Pourtant, il fait bien partie du corps, puisque Dieu dit, mais Dieu a placé dans chaque partie, dans le corps, comme il l'a voulu. Même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Pourquoi revenir à l'Église? Oh, tout simplement pour y retrouver l'amitié, la nourriture spirituelle, une fonction, un épanouissement. Oui, voilà ce qu'est l'Église. Cinquièmement, aimez votre Église, Jésus l'aime. Et là, j'ai été dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, vous connaissez sans doute ce verset. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. » Est-ce que vous avez déjà vécu des moments forts dans un culte? Moi, j'ai vécu à plusieurs reprises ces moments forts. Ou ces moments où le silence s'impose. Où la présence de Dieu est dans le lieu. J'ai même vu des moments où je présidais le culte ne pas pouvoir prêcher, ne pas pouvoir apporter la parole, tellement la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit était là. Et nous nous tenions dans le silence. Dieu inondait l'Église. Dieu inondait par sa présence, par son esprit, chacun de nos cœurs. Et là, où nous n'avions plus envie de chanter, là où nous n'avions plus envie de faire quoi que ce soit, dans ce lieu, il s'est passé quelque chose où les uns et les autres ont confessé leurs péchés. C'est cela la présence de Dieu. C'est cela qui doit nous toucher. John Owen a dit, « Celui qui prend le péché à la légère ne pourra jamais prendre Dieu au sérieux. » Qui d'ordinaire ne nous dérange pas, eh bien, nous troublera profondément en présence de Dieu et de son esprit. Et nous le savons bien. Quand le Saint-Esprit œuvre au sein de son Église, quand le Saint-Esprit œuvre au sein d'un cœur, ou même de plusieurs cœurs, alors on ne discute plus devant Dieu. On s'humilie devant le Seigneur, parce que sa présence est tellement forte qu'elle nous pousse à nous humilier devant lui. On ne s'occupe pas de ce que va dire Pierre, Paul, du frère ou de la sœur qui est à côté de nous, mais nous sommes en présence de Dieu et de son Esprit. Oui, ils se sont humiliés. Et vous savez ce que dit l'apôtre Jacques au chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et c'est dans cette humilité-là que Dieu redresse nos cœurs. C'est dans ces moments particuliers de cette visitation du Saint-Esprit où véritablement nous nous sentons transportés et d'un seul coup vidés de tout ce qui est inutile, de ce qui ne sert à rien. Oui, l'humilité consiste à dire, « Seigneur, je ne possède rien d'autre que ce que tu m'as donné, et tout ce dont j'ai besoin me vient de toi. » Oui. Ils ont prié, non pas une prière de routine, une prière répétitive. Ils n'ont pas prié des prières toutes faites, mais ils ont prié avec le cœur. Ils ont prié avec leur cœur. Les mots n'étaient pas choisis, mais c'était les mots du cœur. C'était les mots qui les ont touchés. Oui, c'est quelque chose d'important. Ils se sont humiliés dans une profonde repentance. Et c'est pourquoi Dieu répond, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, alors moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Wow. Ah, quand Dieu dit quelque chose, c'est pas rien, hein? Ouais. Et puis après, bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert des sacrifices. Ils ont offert des sacrifices. Vous savez que ce jour-là, le peuple a apporté 22 000 bœufs. Vous vous rendez compte, c'est impressionnant. 120 000 moutons. Le plus grand sacrifice jamais enregistré dans la Bible. Pourquoi cela? Parce que je dis tout simplement, si nous ouvrons nos mains à Dieu, Dieu ouvre les siennes vers nous. Et vous pensez bien que les mains de Dieu sont plus grandes que les nôtres. Même avec tout ce que vous pouvez offrir en sacrifice pour Dieu, Dieu vous le rendra au centuple. Aimez, sixième point, aimez votre Église, Jésus l'aime. Quand l'adversaire viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, Ésaïe 59, 19. J'ai noté la prière de Salomon lors de la consécration du temple. Quand il y aura la famine dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, c'est toi qui écouteras des cieux. De la sorte, ils te craindront et marcheront dans tes voies tout le temps qu'ils vivront. Si vos actions sont légitimes, mes frères et sœurs, si elles sont légitimes dans l'Église, vous pouvez prier avec confiance quand les difficultés surgiront, qu'elles soient d'ordre économique, matériel, que sais-je encore. Un des noms donnés par Israël à Dieu était Jéhovah Jireh, qui signifie « le Seigneur pourvoira ». Vous ne serez en sécurité nulle part ailleurs que dans la maison de l'Éternel, psaume 23. Vous prierez avec confiance quand la maladie atteindra votre corps. Vous connaissez bien ce verset de Jacques 5, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Vous prierez avec confiance face aux catastrophes. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, le psaume 91. Vous prierez avec confiance quand le diable vous provoque. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59. En qualité de membre racheté de l'Église, non pas membre d'une association, mais membre de l'Église, membre de ce corps qu'est l'Église, voilà quels sont vos droits, mes frères et sœurs. Aimez l'Église, Jésus l'aime. Vous aussi, vous édifiez ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens, l'apôtre Paul, Éphésiens 2, 22. Jésus vit en chacun de nous. Il vit en chacun de ceux qui forment son Église. Paul dira dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Rien n'est plus proche ni précieux au cœur de Dieu que son Église. Oui, je le répète encore ce matin, Dieu a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Son plus grand dessein est que la sagesse de Dieu, dans sa diversité, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église. Oui, ce matin. Peut-être certains au milieu de nous, ce matin, se demandent comment puis-je devenir membre de l'Église de Christ ? Parce que l'Église de Christ, c'est une famille. Vous devez être né de nouveau. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Vous n'y entrez pas en serrant la main du pasteur. Je veux dire, c'est moi qui viens là, je viens dans cette église parce que je l'aime bien. Non. Vous n'entrez pas dans l'église en remplissant simplement un formulaire avec votre nom et adresse. Non. Vous devenez un authentique membre de sa famille, lavé par le sang et lié au ciel à jamais. La Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ce que Dieu fait. Et il ajoute chaque jour ces hommes, ces femmes, que nul ne pourra retrancher. Et puis, huitième point, nous terminerons là. Aimez votre Église, Jésus l'aime. Christ, après que vous aurez souffert, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, nous dit Pierre, au chapitre 5 et au verset 10. Vous savez combien de temps il a fallu pour construire le temple de Salomon ? 7 ans. 7 ans pour bâtir le temple de Salomon. Vous savez que dans la Bible, le nombre 7 représente l'achèvement, j'allais dire, pleinement de Christ et de Dieu. Et nous sommes parfaitement sauvés en Jésus-Christ, frères et sœurs. Quand Jésus s'est écrié à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Toutes les conditions ont été réunies pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Il ne manque rien. Il n'y a rien à rajouter. Et lorsque vous mettez votre confiance en Jésus, Dieu vous voit ainsi sauvé. Quand il vous établit en Christ, vous avez aussi tout pleinement en lui, nous dira l'apôtre Paul dans Colossiens 2, chapitre 10. Peut-être vous dites, ah, mais oui, mais je ne suis pas encore parfait. Vous dites, oui, mais je pêche encore. Oui, j'ai encore des tentations. Oui. La Bible dit, et c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 3, nous tous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur parce que nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui va vous améliorer, mes frères et sœurs ou chers amis qui êtes ici. Ce n'est pas l'Église qui va vous améliorer, mais c'est Christ qui va vous améliorer. C'est Christ qui va vous changer. Si vous le laissez vous changer, si vous vous laissez transformer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous qui êtes une pierre encore informe, Dieu va l'attirer à la dimension de Dieu pour que vous soyez parfait. C'est cela l'œuvre de Dieu. Comprenez-le ce matin, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, dans chacune de nos vies. Chaque jour, il agit. Peut-être pas comme nous le voudrions, mais de toute façon, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, parce qu'il est en train de nous modeler et modeler l'Église à son image. Le plan ultime de Dieu vous dépasse, il me dépasse aussi. Et c'est l'apôtre Jude qui dit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire, sans défaut, dans l'allégresse, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité. Alléluia. Oui. Notez bien, celui qui peut. Mais c'est aussi celui qui veut. Alléluia. C'est Christ qui agit en nous, et non vous qui agissez pour vous-même, pour vous amener à la perfection, à la maturité. Vous aurez des difficultés, bien entendu, mais il vous aidera dans ces difficultés. Pierre écrit, quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui, en Jésus-Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. Alléluia. Voilà l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'est l'Église. Alors, ça prend du temps. Mais le temps appartient à Dieu. Soyez bénis ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce. Seigneur, tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Tu nous parles tantôt d'une manière, d'une autre. Les points peut-être que nous avons soulevés ce matin. Seigneur notre Dieu, que ton esprit fasse ton œuvre en chacun de nous. Seigneur, sois glorifié. Tu bénis cet auditoire ce matin. Tu bénis chacun des cœurs. Tu pourvois dans ta grâce et dans ton amour et dans ta fidélité que tu sois glorifié en nous et à travers nous, et au nom de Jésus-Christ. Amen.